allons ouvrir la parole de Dieu, nous voulons demander au Seigneur qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre aussi notre intelligence et qu'il meuble notre mémoire des vérités qu'il veut nous communiquer et qu'il nous donne la force de les accomplir dans les jours qui viennent. Ô Dieu, notre Père, nous te remercions parce que nous sommes assurés de la présence de Jésus au milieu de nous. Car si nous sommes rassemblés ce matin, c'est à cause du nom de Jésus. Et lui-même nous l'a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est vraiment un bonheur du ciel que nous avons ce matin. Car Jésus, dans la gloire, fait toujours les délices de ton cœur, ô Dieu notre Père. Et nous croyons que ton cœur est heureux de voir sur la terre quelques hommes, quelques femmes, réunis ce matin autour de celui qui fait tes délices. Et nous voudrions que vraiment tous nos cœurs s'ouvrent aujourd'hui et que nous connaissions un peu ces délices du ciel en contemplant Jésus. Jésus qui était dans la gloire, qui s'est anéanti pour venir vivre au milieu des hommes et qui fut trouvé ici-bas comme un homme, qui a souffert, qui est mort, mais qui est ressuscité, qui est vivant, qui est retourné au ciel pour nous préparer une place, mais qui nous dit « Je reviens bientôt, car tu reviendras. » Et nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui croient à ton retour, et même à l'imminence de ce retour. Et nous voudrions que ce matin, tous les doutes que nous pourrions encore avoir soient dissipés, et que cette journée du 20 mai soit une journée de lumière, de joie, d'amour, de certitude de vie pour ta seule gloire. Amen. Mes bien-aimés, je vous ai rappelé hier soir que nous vivions dans cette quarantaine qui a suivi la résurrection et où Jésus à plusieurs reprises est apparu à ses disciples pour leur donner toutes les preuves assurées qu'ils n'étaient pas en présence d'un fantôme ou d'un revenant, mais qu'ils étaient en présence de quelqu'un qui avait connu la mort, de quelqu'un qu'ils avaient aimé, quelqu'un qu'ils avaient suivi, quelqu'un qu'ils avaient entendu, quelqu'un qui avait vécu avec eux, qui avait mangé avec eux, qui avait souffert avec eux, et qui pourtant, après son ensevelissement, était sorti du tombeau et était réellement vivant. Avant de retourner dans cette gloire d'où il était venu, Jésus leur a donné plusieurs preuves assurées de sa résurrection. Et nous avons lu ensemble, je dis cela pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, ces premiers versets du chapitre 10 des Actes des Apôtres qui sont au fond une clé pour que nous puissions comprendre la fin des quatre évangiles où il pourrait sembler à première vue qu'il y a des contradictions au sujet des événements de la résurrection. Je ne vais pas relire ce texte, je veux croire que vous l'avez en mémoire. C'était donc les 10 versets du chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres qui a été écrit par Luc et qui est au fond la suite plus détaillée du chapitre 24 de cet évangile qu'il a écrit à ce croyant qui s'appelait Théophile. Et je vous ai dit que pour avoir une idée très précise de ces événements qui se sont passés pendant cette deuxième quarantaine de Jésus, puisqu'on a souligné que la première quarantaine, il l'a connue au début de son ministère, c'est la quarantaine qu'il a passée dans le désert avant d'évangéliser. Il a passé 40 jours dans le désert, dans le jeûne et la prière, pour vaincre toutes les tentations de Satan. Et en ayant triomphé de ces tentations, il nous montre à nous aussi que nous aussi, nous pouvons triompher de toutes les tentations qui peuvent surgir dans notre existence. Jésus a triomphé pour nous. Et si vous voulez triompher d'une tentation quelconque, acceptez Jésus dans votre vie. Il n'y a pas d'autre solution. Ne pensez pas que par vos efforts, vous serez assez fort pour triompher d'une tentation quelconque, que ce soit de la drogue, que ce soit de l'alcool, que ce soit des femmes, que ce soit de n'importe quoi qui peut se présenter, par vos propres forces, croyez-le, vous n'arriverez pas. C'est zéro, zéro, zéro. Et je ne vais pas essayer de vous moraliser, de vous dire, faites des efforts, vous triompherez. Le seul triomphe sur la tentation, c'est d'accepter celui qui en a triomphé. Et c'est lui en nous qui triomphe des tentations. Mais en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et croyez-le, commencez par recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie, d'une façon personnelle, et alors vous aurez la victoire. Vous pouvez être assuré de la victoire, et Satan sera vaincu. Mais en dehors de cela, toutes les bonnes résolutions que vous essayez de prendre, même en signant des papiers, vous ne les tiendrez pas. Jésus tiendra en vous. C'est ce que nous apprend cette première quarantaine. Puis, on a vu hier soir la seconde quarantaine, avant de retourner dans la gloire, il a vécu encore 40 jours avec ses disciples. Et c'est ce fait qui nous explique que les différentes circonstances que nous trouvons dans les évangiles. Ce matin, je voudrais seulement encore, pour être complet, puisque hier soir nous avons simplement donné quelques grandes lignes, lire encore au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, quelques versets qui complètent ce que je vous ai demandé de lire, mais peut-être que vous n'avez pas pu le faire. Chapitre 22 Jean, 21-21 de Jean, chapitre 24 de Luc, chapitre 16 de Marc et chapitre 28 de Matthieu, puisque nous voulons rester dans ces 40 journées. Paul nous dit au chapitre 15, Paul qui n'était pas un des apôtres qui avait vécu avec Jésus selon la chair, puisque lui, il a eu la révélation du Christ ressuscité dans la gloire. Mais il nous dit ceci, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. » Et l'évangile que Paul annonçait, ce n'était pas un évangile qu'il avait appris des autres apôtres. C'était un évangile qui lui avait été communiqué directement par le Seigneur dans la gloire. Les autres apôtres ont annoncé l'évangile et les paroles qu'ils avaient entendues de Jésus pendant qu'il était sur la terre. Tandis que Paul, lui, n'a pas entendu les paroles de Jésus sur la terre, il ne le connaissait pas. Il ne l'avait pas connu, comme on dit, selon la chair. Mais l'évangile qu'il a reçu après sa révélation sur le chemin de Damas, il nous dit qu'il l'a reçu directement du Seigneur. C'est pourquoi, même quand il parle de la Sainte Cène, il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Et lui qui n'avait pas été là la nuit où il fut livré, il dit « La nuit qu'il fut livré, Jésus prit du pain. » Ayant rendu grâce, il prit du pain. Donc tout ce que Paul nous dit, c'est une révélation qu'il a reçue du Seigneur, dans la gloire. du Seigneur ressuscité. Et alors, ce qui est vraiment merveilleux, c'est de nous rendre compte que ce que Paul a annoncé comme évangile est différent de ce que les autres apôtres qui l'ont connu sur la terre ont proclamé. Non, c'est le même évangile. Mais si vous voulez vous faire une idée plus exacte de ce que Paul annonçait comme évangile, quel évangile est-ce que vous devriez lire ? L'évangile de Luc. Parce que Luc était le compagnon de l'apôtre Paul. Et c'est donc dans l'évangile de Luc qu'on peut mieux se rendre compte de l'évangile que Paul a annoncé et qu'il avait reçu du Seigneur. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Hein? Mais il nous dit ailleurs qu'il ne l'a pas reçu de Pierre, de Jacques et de Jean. Il l'a reçu directement du Seigneur ressuscité. Hein? Que le Christ est mort pour nos péchés, selon quoi ? Selon les Écritures. Quelles Écritures ? L'Ancien Testament, hein, c'est pas encore les autres évangiles. Ça, c'est l'Ancien Testament, les Écritures. Donc, vous pouvez trouver la mort du Christ, la mort du Messie, annoncée dans les Écritures. Puis ensuite, verset 4. Qu'il a été enseveli. C'est aussi dans l'Ancien Testament qu'il est parlé de l'ensevelissement du Christ. Spécialement dans quel chapitre ? Ésaïe 53. Hein? Et il est même dit dans quelle sorte de sépulcre il a été enseveli. C'est à la voirie, comme on voulait mettre les brigands ? Non. Avec le riche. Il a été avec le riche dans sa mort. Donc c'était bien enseigné, et comme aussi dans le psaume 16. Donc, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, la résurrection du Messie était annoncée, spécialement dans le psaume 16. Et ensuite, verset 5, qu'il est apparu à Céphas. Qui est Céphas ? C'est Pierre. Donc là, on a un texte qui nous dit clairement, quand je vous dis notez toutes les apparitions du Christ, là vous pouvez en mettre une. Hein. Il est apparu à Pierre, à Céphas. Quand il n'est pas dit, et on verra dans les autres évangiles dans cette journée. Il est apparu à Pierre. Puis il est dit aux douze. Parce que les douze, en fait, ça faisait le corps des disciples. Ça ne veut pas dire qu'il y avait exactement 12 personnes. Hein. Mais il est apparu donc, disons, aux apôtres. Les 12, là, il faut le prendre dans le sens général, c'était les apôtres. Est-ce que Judas était là ? Non, il était mort. Hein. Alors, ne chinoiseront pas, c'est en les grandes lignes qui nous sont données. Hein. C'était les 12. Il en manquait un à ce moment-là, mais... ça n'empêche pas que c'était le corps des apôtres. Là, les 12, vous devez prendre dans le sens, il est apparu au corps apostolique. Même si Thomas n'y était pas la première fois, il y était la seconde fois. Et puis, verset 6, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, vous apprenez qu'il n'y avait pas que 120 disciples, comme le jour de la Pentecôte, là, auxquels le Seigneur s'est révélé, mais il est apparu à 500 frères à la fois. Où, quand ? On voudrait bien le savoir. C'est par la lecture des évangiles que nous saurons à quel moment il a pu apparaître à 500 frères à la fois. Et où cette manifestation, cette apparition à 500 personnes s'est faite. À votre idée, est-ce que c'est en Judée ou est-ce que c'est en Galilée qu'il a pu apparaître à 520 personnes, d'après Paul? C'est en Galilée, nous le verrons. N'est-ce pas, c'est là qu'il avait le plus de disciples, c'est là qu'il avait commencé son ministère, et puis 500 personnes auxquelles il se manifeste, ça ne pouvait pas être à Jérusalem à ce moment-là. Nous verrons pourquoi. Alors, notez bien, maintenant, vous avez là Pierre, vous avez 500 frères à la fois, hein, les douze, et puis ensuite, verset 7, Jacques. Et il est apparu à Jacques. Et qui est ce Jacques? Les autres évangiles nous apprennent que Jacques était un des frères du Seigneur. Ce n'était pas l'apôtre Jacques. C'était un des frères du Seigneur, un de ceux justement qui ne croyaient pas en lui. Pendant le ministère du Seigneur, les frères du Seigneur, ou ses demi-frères, si vous voulez, ne croyaient pas en lui. Et pourtant, le Seigneur est apparu à l'un de ses frères, qui ne croyait pas en lui. Et nous voyons qu'il s'est converti, puisqu'il est devenu celui qu'on voit à Jérusalem, et qui était, au fond, l'ancien de la communauté de Jérusalem, c'était le frère du Seigneur. Ce n'était pas un apôtre, c'était le frère du Seigneur. Puis, c'est lui aussi qui a écrit l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, on pense avec raison que c'était un des frères du Seigneur qui l'a écrit. Puis ensuite à tous les apôtres. Alors vous pouvez compter combien de fois il est dit qu'il est apparu là. Tous les apôtres. Ça fait, si on revient en arrière, hein, 1, Jacques, 2, ensuite 500, ça fait 3, les 12, 4, Céphas, 5. Hein? Là, il est parlé de 5 apparitions. Alors, vous pouvez noter ça dans ce que dit Paul. Il raconte qu'il y a eu 5 apparitions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que ces 5. Il en cite 5. Comprenez-le. Maintenant, comme vous n'avez certainement pas eu le temps, et que je voudrais que ce soit vraiment la parole qui vous reste, nous allons lire, mais alors, en arrière, on va commencer par l'évangile de Jean. Je vous ai demandé de lire Jean 20 à 21. Puis on verra ce que le Seigneur nous donne. Pour que nous ayons vraiment une vision du Seigneur ressuscité. Nous avons donc 4 évangiles qui ne sont pas les simples répétitions des mêmes événements. Et on pourrait dire que c'est comme s'il y avait 4 journalistes. Je m'excuse de comparer les apôtres à des journalistes. Les rédacteurs des évangiles, qui vont nous faire un compte-rendu d'un événement. Bien, si vous prenez un article dans la presse, si vous prenez un article dans Le Devoir, si vous prenez un article dans le Journal de Montréal, relatant le même événement, mais ce n'est pas le même journaliste qui raconte ça, eh bien vous verrez qu'il y a des différences. Il y a un de ces reporters qui a été plutôt frappé par telle circonstance. Et il parle surtout de cela, parce que c'est ça qui l'a frappé. L'autre, parlant du même événement, souligne surtout d'autres faits, qui ne sont pas en contradiction nécessairement. Mais le premier n'a pas dit cela. L'autre dit des détails qui n'ont pas tellement intéressé le premier. Et puis un troisième dira d'autres choses, de sorte qu'il faut mettre tout cela ensemble. Il n'y a pas contradiction dans ces rapports. Ce qui est essentiel, même si les détails sont différents, qu'est-ce qui est essentiel? L'événement. Sur quoi sont-ils d'accord? c'est que Jésus est ressuscité. Ça, vous pouvez en être certain. Jésus est ressuscité. De cela, les quatre évangélistes nous en parlent. Et je prends Jean, qui est l'évangile qui a été écrit en dernier. Et je souligne tout de suite ici, pour que vous le compreniez bien quand vous lisez les évangiles, chaque évangéliste avait à cœur de présenter Jésus d'une certaine manière. Jean nous a présenté Jésus avec la pensée, du reste il le dit clairement, que tout ce qu'il a écrit, il n'a pas tout écrit. Hein, ce qu'il a entendu de Jésus, parce qu'il dit, si j'avais dû écrire tout ce que Jésus a dit, ou si j'avais dû vous faire un compte-rendu de tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qui arriverait? Mais j'aurais pas fini d'écrire aujourd'hui. Il dit, le monde entier serait trop petit pour contenir tous les livres qu'on aurait pu écrire. Mais ce que je vous ai écrit, je l'ai écrit pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie par son nom. Donc, l'évangile de Jean nous présente la divinité essentielle de Jésus-Christ. Jésus était réellement Dieu. C'est le but que Jean avait dans son évangile. C'est pourquoi, étant donné qu'il allait présenter Jésus comme le Fils de Dieu, il ne nous parle pas du tout de sa naissance à la crèche. Est-ce que Jésus est né dans une crèche, selon vous? Oui, mais si vous lisez ça dans Jean, vous n'avez pas de récit. Dans Jean, et c'est pour ça que je voudrais que vous repreniez chaque un de ces éléments, le commencement de l'évangile de Jean nous montre Jésus où, le Fils de Dieu où? Dans la gloire. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Puis ensuite, après nous avoir dit que toutes choses ont été faites par cette parole, la parole devint chair. Ça, c'est sa naissance. Hein? La parole devint chair. Mais il ne nous est pas donné des détails sur la naissance de Jésus à Bethléem, comme vous le voyez dans Luc. La parole devint chair et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique venu de la part du Père. Et alors, au travers de tout l'évangile de Jean, ce que Jean a souligné, c'est ce qui mettait en relief la divinité essentielle de Jésus. Il était réellement un homme, mais il était Dieu. Et la fin de son évangile ne nous parle pas du tout de l'ascension, mais elle nous montre Jésus qui s'en va avec deux de ses disciples. Reprenez le début de l'évangile, reprenez la fin et vous verrez, vous aurez une compréhension nouvelle de ces choses. Alors, maintenant nous lisons, vous avez tous le chapitre 20 devant vous. Je ne sais pas quelle version vous avez. Vous avez tous second? Est-ce que vous voulez lire ou bien est-ce que vous voulez que je lise? Vous suivez alors. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Donc, là, on voit que c'était donc très tôt, même avant le lever du soleil. Et là, on voit que c'est Marie qui vient elle-même très tôt au sépulcre. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alors, je vous demanderai, pendant que nous allons lire ces évangiles, que vous vous souveniez de ce que nous avons lu dans Acte 1. Il est dit que Jésus est remonté au ciel après avoir donné ses ordres, ses instructions à ses disciples durant ces 40 jours, soit en Galilée, soit à Jérusalem. Puis, il a donné donc plusieurs paroles. Et j'aimerais que vous essayiez de de noter quelles sont les paroles que Jésus ressuscité a dit. Et vous pourriez même les compter. Le nombre de paroles que Jésus a dit et qui nous sont rapportées dans cet évangile, parce qu'elles sont merveilleuses. Puis aussi, j'ai dit qu'il leur a donné plusieurs preuves assurées de sa résurrection. Alors, au fur et à mesure que nous lisons, vous pouvez noter quelles preuves est-ce qu'il a donné, des preuves tangibles à ses disciples durant ces 40 jours qu'il était réellement ressuscité. Alors, souvenez-vous de cela. Quelles sont ses instructions, ses ordres? Quelles sont les apparitions qui nous sont relatées? Puis, quelles preuves Jésus a données au cours de ses apparitions de la réalité de sa résurrection? Et quelles sont ses paroles? Alors, verset 1. Nous voyons Marie-Madeleine. Et qu'est-ce qui lui arrive? Elle voit donc que la pierre est ôtée. Le sépulcre est ouvert. Et qu'est-ce qu'elle fait? Verset 2. Elle court vers Simon Pierre et vers l'autre disciple. Qui c'est l'autre disciple? C'est Jean. Que Jésus aimait. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Qu'est-ce qu'elle rapporte déjà là? Selon les autres évangiles, qui est-ce qui prétend qu'on a enlevé le corps du Seigneur? C'est les gardiens, parce qu'on apprend qu'il y avait des gardiens, qui vont déjà dire partout aux Juifs que le corps de Jésus a été enlevé. Mais enfin, Marie, tout ce qu'elle sait, c'est que le sépulcre est ouvert. Alors, elle court, elle va vite trouver qui? Pierre et Jean. Alors, verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient les deux ensemble. C'est quelque chose de merveilleux, cette course. Ce jogging des deux. Qu'est-ce qu'ils constatent? Ils voient les bandes qui étaient à terre. Ces bandes, on enveloppait le mort de bandes. Les bandes étaient à terre, mais cependant, Jean n'y entra pas. Il s'est penché, il a vu, le sépulcre est vide, il y a les bandes par terre, le corps n'est plus là. Bon, donc, ce que Madeleine a dit est vrai. Mais Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Puis lui, c'est un fonceur malgré tout, il entre dans le sépulcre. Et il vit les bandes à terre. Qu'est-ce qu'il constate aussi? Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Vous rirez si je vous dis que ce simple verset, ma grand-mère me le citait pour que je me souvienne que je devais faire mon lit le matin et bien le faire et ne pas laisser du désordre. Parce qu'elle disait, Jésus n'est pas sorti avec précipitation du sépulcre, il a plié son linge. Avant, j'étais comme petit enfant et cette parole m'a souvent été rappelée. Et je la racontais à notre ami que certains ont connu, qui est auprès des seigneurs, le père Jean Roger, et il l'a raconté plusieurs fois après dans au pèlerin, quand il allait montrer le sépulcre, il racontait cette histoire de ma grand-mère. Bon, eh bien, souvenez-vous que de n'importe quel verset, on peut tirer une instruction qui reste fixée dans votre sensibilité. J'ai pas à laisser traîner les choses. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra. Il vit et il crut. Mais ça, c'est sa foi personnelle. Ça ne veut pas dire que les autres ont cru. Mais lui, dans son cœur, puisque c'est lui qui écrit, il nous dit que il a cru. Il a cru. Les autres ne peuvent pas savoir. Il n'a pas dit, moi je crois. Non. Mais dans son cœur, il a cru. Souvenez-vous bien de ça. Car il ne comprenait pas encore. Alors ça, c'est tous les deux. Il croyait, mais d'une foi qui n'était pas éclairée, il s'est dit, peut-être, Mais il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Jésus le leur avait dit cela. Il avait dit plusieurs fois dans son ministère qu'il allait mourir, puis qu'il ressusciterait. Mais ça, il n'y pensait plus. Et alors, les disciples s'en retournèrent chez eux. Ils sont allés chez eux. Et Pierre est retourné aussi chez lui, donc à Jérusalem, là où il logeait. Et c'est là que vous avez le verset 11. Donc, il n'y a pas eu de parole de Jésus, ils n'ont pas vu Jésus. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Ce que peut-être elle n'avait pas fait la première fois qu'elle est venue au sépulcre. Ça, c'est la deuxième fois qu'elle vient au sépulcre, ce matin-là. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs voyages. Et la deuxième fois, alors, elle se baisse. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle répondit, c'est tellement beau, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Elle sait bien que ce n'est pas les disciples qui l'ont enlevé, parce qu'elle était avec les disciples. Mais, enfin, on a enlevé le Seigneur, et il n'est pas là, elle n'a pas encore l'idée qu'il est sorti tout seul. « On a enlevé mon Seigneur. » Pour elle, c'est un enlèvement. Je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne le reconnaît pas. Parce que Jésus est déjà dans son corps glorifié. Mais c'est pourtant Jésus. Et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Alors, voilà une parole. Une des paroles du ressuscité. Disons, une des premières paroles. À quelqu'un qui pleure, le ressuscité dit, pourquoi pleures-tu? Et j'aimerais que vous notiez qu'au fond, les paroles du ressuscité sont surtout des questions. Pourquoi pleures-tu? Voilà une parole du ressuscité. Vous êtes dans la peine. La parole du ressuscité, pourquoi pleures-tu? Et la compassion de vous. Ah, c'est bien Jésus ça. Pourquoi pleures-tu? Première parole du ressuscité à quelqu'un qui pleure. Et puis, seconde question, qui est deuxième parole, si j'ose dire ainsi, du ressuscité, puisque c'est à Marie qu'il a parlé en premier, qu'est-ce qu'il lui dit encore? Qui cherches-tu? Mais au fond, de quoi est-ce que vous avez besoin? Quel est l'objet du désir de votre cœur? Qu'est-ce que vous voudriez? Pourquoi encore est-ce que vous pleurez? Mais de qui avez-vous besoin? Qui cherchez-vous? Qui cherches-tu? C'est tellement beau, hein? Le ressuscité vous demande, mais qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu cherches? Qui cherches-tu? Puis qu'est-ce qu'elle dit? Elle est tellement remplie du Seigneur. Parce que vous voyez, quand on est rempli du Seigneur, on pense que tout le monde pense la même chose que nous. Et elle ne dit pas, elle ne donne pas un nom là. Elle dit, elle croyant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, qui a emporté qui? Mais elle ne lui dit pas si c'est toi qui as emporté Jésus ou si c'est toi qui as emporté. Si c'est toi qui l'as emporté, elle pense qu'il doit bien savoir de qui il est question. Elle ne lui donne pas de précision. Si c'est toi qui l'as emporté, Jésus aurait pu dire, qu'emporté quoi? Qu'emporté qui? Mais elle est remplie du Seigneur. Elle pense que le jardinier doit comprendre son langage. Si c'est toi qui l'as emporté, et qu'est-ce qu'elle demande? Dis-moi où tu l'as mis. Et alors, troisième parole du ressuscité, c'est quoi? Marie. Vous ne pensez pas que ce matin, il pourrait vous appeler par votre nom? Au fond, pourquoi est-ce que vous pleurez intérieurement? Peut-être que vous n'avez pas des larmes extérieures, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Puis au fond, qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Quelle bénédiction est-ce que vous cherchez? Mais si vous le dites, je
je voudrais connaître le Seigneur, je voudrais savoir où il est. Moi aussi, je cherche le Seigneur. Qu'est-ce qu'il vous dira?
Comment est-ce qu'il vous appellera? Il ne vous appellera pas Marie. Il vous dira votre nom. Moi, je ne sais pas. C'est peut-être un nom d'homme, peut-être un nom de femme. Voilà la troisième parole du ressuscité. Il vous appelle par votre nom. Ça, c'est bien Esaïe. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Méditez sur les paroles du ressuscité. Ça, ce sont les paroles du ressuscité. Il vous appelle par votre nom. Il vous connaît par votre nom. Et il vous aime. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle lui répond? Maître, ou Rabboni, maître, est-ce que vous le reconnaissez comme maître? Est-ce que vous pouvez dire, dans ce matin du 20, mais, maître, 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 vous le reconnaissez comme votre Seigneur? Et puis, alors, il est dit immédiatement, elle veut le toucher. Elle lui dit, maître, Jésus lui dit, ne me touche pas. Elle fait ce geste comme si elle voulait le prendre. Ne me touche pas, car je ne suis pas monté vers mon Père. Alors, c'est là que l'on pense que Jésus, accomplissant son sacerdoce, allait porter son sang, présenter son sang devant le Père des cieux. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a eu deux ascensions. D'abord, il est retourné vers son Père, mais dans ce premier matin, il n'était pas encore allé vers son Père, et l'on pense qu'il a présenté son sang à son Père. Il avait achevé l'œuvre, et maintenant, comme sacrificateur, il présentait son sang. Et il lui dit tout de suite, mais va trouver mes frères. Il n'est plus question maintenant que je sois avec vous comme tu m'as connu depuis la Galilée. Nous n'aurons plus vraiment les mêmes relations, c'est des relations réellement spirituelles. Alors à elle, à Marie, qui avait une telle affection pour le Seigneur sait ce qu'il faut lui dire à elle. À d'autres femmes, après, il dira autrement, il laissera les autres femmes le toucher. Il n'y a pas contradiction, si vous prenez bien les choses. Va trouver mes frères, dis-leur, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Voilà la parole que Jésus dit ensuite à Marie. Donc, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voilà une autre parole du ressuscité qui est dite à une personne, Marie, puis ensuite, va trouver mes frères. C'est la première fois que Jésus parle de ses disciples comme étant ses frères. Avant, il pouvait dire qu'ils étaient ses serviteurs, puis qu'ils étaient ses amis. Mais ici, il peut dire qu'ils sont ses frères. Ils sont réellement ses frères. Les anges, comme on le verra dans les autres évangiles, ont dit qu'elles doivent aller vers ses disciples. Mais Jésus, lui, il ne les appelle plus disciples, il les appelle frères. Va, dis à mes frères. Il a acquis pour Dieu des enfants. Et il les appelle ses frères et il n'a pas honte, réellement, comme il l'est dit dans les Hébreux, de les appeler ses frères. Alors, vous notez encore une parole du ressuscité, « Va, dis à mes frères, je monte. » Alors, Marie, verset 18, Marie de Magdala alla et annonça aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Elle a donc fait la commission. Mais comme nous allons le voir dans les autres évangiles, ils n'ont pas cru. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, vint et se présenta au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Il leur dit cela deux fois. C'est la sixième parole du ressuscité dans Jean. La paix soit avec vous. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il leur dit encore? Parole du ressuscité. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et vous savez, là, ils peuvent reconnaître le Seigneur parce qu'ils l'avaient entendu prier. Et dans sa prière, la nuit où il fut livré, il avait dit qu'il les a envoyés comme tu m'as envoyé dans ce monde. Donc, c'est le même Seigneur, il a les mêmes pensées. Verset 22. Après ces paroles, qu'est-ce qu'il a fait? Il souffla en eux. Qu'est-ce qui a soufflé dans l'homme? Une respiration de vie une première fois. C'est Dieu où? Dans la Genèse, hein? À Adam et Ève. Maintenant, pour ces gens qui naissent de nouveau, il souffle en eux son esprit. Nous sommes animés d'un nouvel esprit. Vous avez reçu à votre naissance quel souffle? Le souffle, au fond, divin aussi, mais le souffle d'une créature. Maintenant, vous recevez le souffle d'une nouvelle créature. C'est le souffle du Seigneur. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est une des paroles du ressuscité. Et puis, verset 23, une autre parole du ressuscité, vous pouvez les compter, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, puisqu'il leur dit, je vous envoie, mais avec quelle mission? Eh bien, la mission de prêcher l'Évangile. Et quand on prêche l'Évangile, les gens sont convaincus de péché. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire à des gens qui sont convaincus de péché? Les laisser dans leur culpabilité? Leur dire, vous êtes perdus? Mais il n'y a pas même besoin de dire aux gens qui sont perdus, parce que quand on leur présente Christ, quand on leur présente la parole, ils arrivent à comprendre qu'ils sont perdus. Qu'ils sont réellement perdus. Et ils sont dans la tristesse. Et alors, quand on les voit amenés par la parole à quoi? À la repentance, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quand on voit qu'il y a réellement repentance, qu'on se repent ses péchés, qu'on se dit, mais c'est plus possible que je vive comme avant, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cet homme-là ou à cette femme? Tes péchés sont pardonnés. C'est pas seulement aux apôtres que Jésus donne ce pouvoir, mais c'est aux véritables enfants de Dieu qui se rend compte que réellement, l'Esprit de Dieu a fait son œuvre dans un cœur, que ce cœur est convaincu de péché, et que maintenant, on peut lui assurer le pardon des péchés. Par quel sacrifice? Par le sacrifice de Christ. C'est en vertu du sacrifice de Christ que les péchés sont pardonnés. Et nous pouvons leur témoigner que leurs péchés sont pardonnés, en les mettant en face de l'Esprit. À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, mais à ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Si on voit que quelqu'un dit, mais moi je suis un sauvé, puis continue de vivre vraiment dans le péché, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut retenir ses péchés sur lui, et lui enlever son illusion. Tu ne peux pas simplement dire, Jésus est mon sauveur, puis tu continues à pécher. Là, il est question de savoir enlever cette illusion du salut à quelqu'un qui pense « J'ai Jésus comme sauveur, maintenant je peux mener la vie que je veux. » Il a tout payé, il a tout pardonné. Là, notre ministère, c'est de retenir les péchés sur ses âmes pour qu'il n'ait pas l'illusion, parce que l'illusion, elle va tomber tout à coup. Au moment peut-être de la mort, ils vont être accablés en se disant, mais au fond, j'ai dit que Jésus était mon sauveur, mais maintenant je m'en vais rencontrer le juge. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? T'as été ma vie. C'est pas vos œuvres qui vous sauvent, c'est pas en pensant aux bonnes œuvres que vous avez faites que vous aurez l'assurance de votre salut, mais c'est en pensant à ce que Jésus a fait. Mais si c'est vrai que Jésus est mort pour vous, comme nous le rappelons à la Sainte Cène, est-ce que vous pourrez prendre la Sainte Cène machinalement, en disant, bon, c'est simplement des symboles, ça nous engage pas? Quand vous prenez la Sainte Cène, quand vous communiez, vous engagez votre responsabilité, que c'est plus possible de vivre comme dans le passé. Et c'est pourquoi, même si on prenait la Sainte Cène tous les jours, ça ne serait pas de trop. Pourquoi? Parce qu'on oublie tout le temps le prix que Jésus a payé. Et c'est tous les jours qu'on devrait se souvenir que Jésus est mort pour nous. Et alors, si tous les jours on se souvenait que Jésus, pour que nous soyons pardonnés, a dû donner sa vie, nous aurions une puissance pour ne plus retomber dans nos fautes. Nous préférerions tout souffrir que de pécher. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Le Christ, il a souffert une fois, il s'est reposé du péché, bien nous aussi. Armons-nous de cette pensée. Si le Christ a souffert une fois pour toutes, nous sommes maintenant dans la communion de ses souffrances, et en prenant la scène, nous disons, bien, Seigneur, avec cette vie passée, c'est terminé, c'est toi qui vis en moi, c'est toi qui vas accomplir les œuvres, la force que moi je n'ai pas, c'est toi qui vas me la donner, je compte sur toi éperdument. Et le Seigneur vous donnera la délivrance. Alors, méditez sur cette parole de Jésus ressuscité, verset 23, c'est pas à un clergé qu'il a donné ce pouvoir, mais c'est à l'Église, c'est à ses disciples, à ceux qui formeront l'Église. Verset 24, nous apprenons que dans cette première rencontre, Thomas, un des douze, n'était pas là. Thomas appelé Didyme, l'un des douze, parce que vous voyez, là encore, il est parlé des douze, hein, et pourtant Judas n'y est déjà plus. Alors, de nouveau, ne chinoisons pas quand il est parlé des onze ou des douze. C'est le corps apostolique et qui sera complété avant la Pentecôte par l'apôtre Pierre. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux ce jour-là, avec Jésus quand Jésus vint. Les autres disciples, forcément, ils lui ont raconté la chose dès qu'ils l'ont revu. Et ils lui disent, nous avons vu le Seigneur. Mais lui leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ses, dans ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et est-ce que vous avez une piètre idée de Thomas? Ou du tout Thomas, c'était le dernier des disciples, parce qu'il était drôlement incrédule. Pas tellement que ça. Il était incrédule au sujet de la résurrection, parce que c'est une impossibilité. Il l'avait vu crucifié. Mais il aimait le Seigneur, Thomas. Et même s'il avait des doutes, parce que lui, il ne l'avait pas vu, il l'aimait tellement qu'un jour, il avait été au-devant des disciples qui disaient à Jésus, « Tu ne vas pas remonter à Béthanie pour un mort. Hein? » Lazare était mort. Puis tu dis que maintenant que tu vas remonter à Béthanie, mais tu sais très bien qu'on va te tuer. Là, ils avaient peur pour leur Seigneur. Puis qu'est-ce que Thomas avait dit? Montons avec lui. Puis s'il doit mourir, mourons avec lui. Il était prêt à mourir avec lui. Dans ses sentiments, mais évidemment, comme tous les autres, ils l'ont abandonné. Il l'a abandonné au jardin de Gethsémané, il s'est sauvé. Mais pourtant, ne méprisez pas Thomas et bénissez Dieu que Thomas ait eu des doutes. Pour quelle raison? Parce que c'est un exemple pour vous. Si vous avez des doutes, hein, eh bien dites-vous que les disciples n'ont pas cru ça comme ça. Voilà des bonnes femmes qui viennent nous dire qu'ils l'ont vu, que Jésus est ressuscité. C'est des histoires de femmes. Les femmes, elles ont toujours des visions. Nous, on est des hommes. Hein. On est mal. Et on ne nous fera pas croire n'importe quoi. Eh bien voilà, Thomas nous représente, nous, avec notre logique, etc. Tout ce que nous voulons. Eh bien, je bénis Dieu pour cette incrédulité de Thomas, parce qu'elle nous sert et qu'elle nous donne une preuve encore plus grande de la résurrection du Christ. Parce qu'il est dit qu'il y a plusieurs preuves assurées. Alors vous allez aussi les noter, ces preuves. Qu'est-ce qu'il a fait pour que réellement on soit assuré de sa résurrection? Il revient 8 jours après. Ils sont toujours là, enfermés dans leur maison là de Jérusalem, parce qu'ils ont peur, ils sont menacés. 8 jours après, verset 26. les portes du lieu où ils étaient fermées. Et de nouveau, une parole du ressuscité, c'est la troisième fois qu'il leur dit, la paix soit avec vous. Puis il demande à Thomas,
je voudrais que vous soyez un peu dans la peau de Thomas, parce qu'un jour Jésus va venir, hein. Quand nous le verrons, nous avons eu aussi des doutes. Nous avons peut-être douté de son retour. Est-ce que vous doutez de son retour, de l'imminence de son retour? Mais viens ici, toi qui as douté que je reviendrai. Hein? Eh bien, avance ça, je suis là.
Alors, quand le Seigneur apparaîtra, et pour nous enlever sur les nuées, qu'on le verra, est-ce qu'il n'y aura pas aussi tout un travail dans notre cœur?
Parce que, viens Thomas, moi je sais très bien ce que tu as pensé. Et puis, qu'est-ce qu'il lui dit? Il reprend ses paroles, parce que vous savez, c'est par nos paroles qu'on sera jugé. Seigneur se souvient des paroles que nous avons prononcées. Il reprend ses paroles, et puis il lui dit...
Oh, je m'excuse. Oui, j'arrête. Verset 27. Avance ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule mais crois. Alors Thomas s'effondre, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, bien que nous soyons de ceux-là. Et alors, immédiatement après, voilà les paroles du ressuscité. En voilà encore une. Hein. Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà encore une parole que vous pouvez noter. Puis alors, vous avez le chapitre 21, mais nous allons peut-être nous arrêter là pour que nous puissions avoir... ce moment de culte, je ne sais pas à quelle heure est-ce qu'il vient, l'homme 11h? Oui. Bon, mais pour que nous ayons ce moment de culte. Mais je voudrais que vous restiez dans ces pensées, parce que j'ai réellement à cœur que nous puissions faire la fin de cet évangile, voir la fin de l'évangile de Luc, la fin de l'évangile de Marc, la fin de l'évangile de Matthieu, afin que, au final, vous ayez réellement, durant ces 40 jours, un enseignement très précis sur la résurrection, sur l'épreuve de la résurrection, parce que dans les églises maintenant on nous dit que Jésus n'est pas réellement ressuscité, hein. c'est son esprit qui est ressuscité, et puis qu'il n'y a pas de résurrection matérielle, de résurrection physique, parce qu'on ne croit pas qu'on puisse avoir un corps glorieux. On aura un corps, Mais pas un corps de chair, un corps glorieux, un corps qui n'aura plus besoin de manger et de boire. Mais pour prouver que c'est réellement un corps, Jésus a fait ce miracle de manger et de boire pour prouver qu'il n'était pas un esprit, un corps de gloire. Et c'est en voyant ce que le corps du ressuscité est capable de faire que nous pouvons comprendre quelle sera la mission que nous aurons dans le royaume, parce que dans le royaume nous ne serons pas simplement assis sur des trônes pendant l'éternité à nous croiser les mains. Nous aurons des missions à accomplir, et ces missions nous les accomplirons dans un corps, parce que nous serons en contact avec des humains qui seront humains comme nous avons été humains. Mais nous serons comme les anges de Dieu. Et les anges, évidemment, ils n'ont pas besoin de manger, et puis il n'est plus question du sexe alors, mais il est question de mission. Eh bien, les croyants de l'Église, quand ils seront ou ressuscités ou glorifiés, auront durant l'éternité, selon la fidélité qu'ils auront eue sur la terre dans l'accomplissement de leur tâche, ils auront des missions à accomplir durant le règne millénaire où les cieux et la terre seront réunis. Notre habitation à nous sera dans la Jérusalem céleste, mais il y aura sur la terre la Jérusalem terrestre, et qui fera monter à Jérusalem toutes les autres nations de la terre, et ce sont spécialement les témoins juifs, les juifs qui annonceront l'évangile à toutes les nations et qui feront de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est l'évangile de Matthieu qui est spécialement consacré aux Juifs et à ce qui se fera parmi, dans le règne, parmi toutes les nations. L'évangile sera confié à des missionnaires juifs et les croyants dans la gloire auront des missions à accomplir auprès d'eux. C'est pourquoi il est vraiment important que nous sachions quel a été le corps de Jésus ressuscité, ce qu'il pouvait faire avec son corps ressuscité. Il pouvait se déplacer sans avoir besoin d'un anneau ou d'une barque pour aller en Galilée ou en Judée. Hein. Il pouvait s'y retrouver en un instant, comme nous n'aurons pas besoin de prendre un avion pour aller quelque part, pour accomplir notre mission. C'est dans la mesure où nous apprenons à connaître la personne de Jésus que vous serez capable de savoir ce qui vous attend. Car nous serons, comment après, semblables à lui. Hein. Nous serons semblables à lui. Bien que le Seigneur bénisse sa parole et que déjà ce matin, et dans la journée qui vient, nous puissions vraiment penser à toute cette gloire et que nous ayons maintenant notre culte d'adoration dans la liberté de l'esprit. Amen.